Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet en partant de la diversité des expériences. Et en partant de ce point de vue, c'est une vieille discussion parmi les juristes, en tout cas en France. Il y a eu ce débat très tôt, au fond déjà entre Pascal et Montaigne, Pascal et Montesquieu, Pascal se moquant de cette justice qui est bornée par une rivière, Montesquieu mettant au contraire en évidence le fait que la diversité des lois et des systèmes correspond à la diversité, il disait pas de milieux naturels, mais enfin des cultures, des histoires et des milieux physiques. Et puis à nouveau, au moment de la Révolution française, il y a des pages très dures, très presque enfin, méprisantes de Condorcet contre Montesquieu, où Condorcet dit « puisque la raison est une, le droit doit être un sur l'ensemble de la surface de la planète ». Eh bien, on peut dire que la globalisation procède un peu de cette idée qu'il existe des lois universelles. Ces lois ne sont plus recherchées dans des textes sacrés, mais dans un ordre spontané du marché ou dans un essor technique qui échapperait à toute prise humaine, et qu'au fond, les droits nationaux ne doivent être que la déclinaison de ces lois universelles, adaptées au pays, faire en sorte qu'il y ait le moins de troubles possible pour que cet ordre règne. Alors cette façon de voir que correspond à l'idée de globalisation, avec le mot « global » vient de la psychologie, au départ c'est ce qui a donné la méthode globale, c'est voir comme un tout, comme une unité. À cette approche s'oppose donc celle de la mondialisation, qui tend à voir au contraire le monde comme une mosaïque d'histoires, de cultures, de contextes physiques différents, qu'il ne s'agit pas d'uniformiser, mais d'unir autant qu'il est possible. Nous avions consacré à ce binôme mondialisation-globalisation un colloque il y a 2 ans, qui avait été placé sous l'égide de Simone Veil, je parle de la philosophe avec un W, et les actes de ce colloque doivent paraître dans 15 jours aux éditions du Collège de France. Je vous le signale, enfin, les informations précises seront diffusées sur la liste d'informations de la chaire. Alors c'est dans cette perspective que se situent nos travaux aujourd'hui, celle d'une confrontation de la diversité des expériences sans laquelle nous sommes condamnés à rester sur une pente qui sans doute fut celle de l'OIT lors de sa création et que je résumais hier en disant « les lumières sont au nord, l'obscurité au sud, il faut répandre les lumières du nord sur l'obscurité du sud ». Ce n'était pas dit dans des termes tels, mais enfin on parlait des peuples qui nécessairement allaient rejoindre le modèle industriel et l'ensemble de la construction intellectuelle de la constitution de l'OIT repose quand même sur cette idée d'un modèle qui est universel, avec des catégories universelles qu'on va projeter sur l'ensemble des pays. Même si, dans le détail, la vue que je présente pourrait paraître caricaturale à ceux qui connaissent un peu plus dans le détail les normes internationales du travail, il y a des instruments de souplesse, mais on peut dire que globalement, telle était la pente. Dans une sorte d'universalisme naïf qui procède, je le répète, de la projection de ces catégories de pensée sur le monde entier, au lieu d'essayer de procéder d'une confrontation des différents modes de pensée. Alors cette seconde approche, c'est celle qui est développée à l'Institut d'études avancées de Nantes, dont sont issus un bon nombre des intervenants d'aujourd'hui, qui s'est donné pour mission justement d'essayer de travailler à un universalisme fondé sur une confrontation, sur un pied d'égalité des schèmes de pensée. Ça renvoie à des problèmes plus généraux de crise des sciences humaines, à mon sens, puisque les sciences sociales sont fondées sur des catégories de pensée qui sont fondamentalement normatives. Et dès que l'on gratte, on s'aperçoit que les 3/4 d'entre elles sont issues du droit romain. contrat, loi, religion, État, etc. Et que leur exportation ne va pas de soi. On s'en rend compte dès qu'on a des problèmes de traduction. Madame Zeng vient d'achever la traduction d'Homo Juridicus en chinois. Je peux vous dire que rien n'est évident dans la traduction de chaque notion. Alors, pour l'OIT, il y a eu des problèmes de ce genre. J'en cite un seul parce que nous avons, en fin de journée, nous devions avoir ici Gerd Spittler, qui a été empêché par un accident de vélo. Il s'est cassé la cheville. Et je sais ce dont il voulait nous parler, c'était donner un exemple. Gerd Spittler est un anthropologue qui a beaucoup travaillé dans les régions subsahariennes, enfin sahéliennes, disons. Et il est très critique du maniement du concept de travail par les normes de l'OIT, s'agissant spécialement des règles concernant le travail des enfants. Et ce n'est pas très difficile de comprendre en quoi cette exportation immédiate de la notion de travail pose problème, puisque nous-mêmes disons à nos enfants et à nos petits-enfants, dans mon cas, j'espère que tu travailles bien à l'école. Et dans le même temps, on dit au reste du monde, c'est interdit de travailler pour les enfants. Donc on sent bien qu'il y a un problème. De quoi parle-t-on quand on parle de travail ? Il y avait sur ce... Je prends cet exemple parce que c'est un exemple où si on avait prêté un minimum d'attention à des textes conçus par des intellectuels africains, je pense à la Déclaration africaine des droits de l'enfant, la formulation, c'est « il faut interdire toute forme de travail qui compromet l'éducation et l'épanouissement de l'enfant bon. ». On comprend bien ce que ça veut dire. On peut penser qu'actuellement, ce qui compromet l'éducation et l'apprentissage de la raison de pan entier de la jeunesse dans nombre de nos pays, c'est justement le non-accès à aucune espèce de forme et d'expérience du travail. Donc, voyez en quoi ce travail de confrontation des catégories peut nous aider à mieux comprendre les nôtres et à accéder, à s'accorder justement sur quelque chose que ma collègue Mireille Delmas-Marty appellerait peut-être un jus commune, je ne m'engagerai pas sur ce terrain, mais enfin disons un minimum d'entente. Alors nous allons le faire justement, la répartition du travail, ça a été de dire on va consacrer d'abord un temps à ces pays que l'on disait, alors on les a dit comment, sous-développés, après on les a dit en voie de développement, et maintenant, pour un certain nombre d'entre eux, on les dit émergents. Donc il y a une évolution de vocabulaire. On continue de penser que, malgré tout, cette émergence se fait dans un mouvement de rapprochement avec un modèle qui serait le modèle occidental. Or, notre panel d'hier sur les questions écologiques montre ce qu'il y a d'absurde dans cette vue. Je donne un exemple, un souvenir personnel avec M. Sidi Bé, qui est dans cette salle, qui a exercé de hautes fonctions au Mali. Je me souviens avoir visité ce qu'on appelle les forges de Bamako, qui est un lieu qui, en matière de récupération des matériaux, surpasse toute espèce de savoir-faire. Alors, c'est dans des conditions de travail des enfants, dont on peut dire qu'elles sont améliorables. Mais on envoie des experts depuis l'Europe pour apprendre aux Maliens comment recycler. On prétend leur apprendre un usage économe des ressources. Alors que s'il y a des pays et des cultures qui ont cultivé cet usage économe depuis longtemps, s'il y a des gens qui pourraient nous donner les leçons, ce sont plutôt eux. Donc, vous voyez, c'est à travailler à cette... non pas un renversement complet, tout dépend des questions, mais un processus d'apprentissage mutuel que nous souhaitions vous convier ensemble. Alors, j'allais dire que les orateurs que vous allez entendre sont rompus à cet exercice, puisque... ils ont tous passé une année dans des conditions où ils étaient confrontés chaque jour à des gens venant d'horizons différents. Et donc, on va commencer par les pays dits émergents, peut-être certains même totalement émergés dans le cas de la Chine.